Des informations.
Les infos. Vous infos d'ici.
Il est 8 heures, les informations locales et régionales. Alexis Goyer, bonjour.
Bonjour.
Alexis, on commence en parlant d'augmentation du prix minimum des baux de villégiature, et cela dès 2026.
Le conseil d'administration provincial du regroupement des locataires des terres publiques du Québec dénonce le projet de règlement modifiant le règlement sur la vente, la location et l'octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l'État. Dès 2026, le prix minimum des baux de villégiature augmentera de 46 %. Il passera donc de 343 $ à 500 $. Dans cette décision prise en juillet, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts n'a retenu aucune recommandation soumise par le RLTP pendant la période de consultation qui s'est terminée le 11 avril. Le président national du regroupement des locataires des terres publiques du Québec, Arthur Fortin, trouve injuste que ce soit les baux minimums qui soient touchés.
C'est ça qui est un peu inéquitable et surprenant. C'est le loyer minimum. C'est vraiment ceux qui payaient auparavant le minimum. Et ça s'adonne que ceux qui payent le minimum, dans le fond, c'est ceux qui ont les propriétés les plus éloignées puis les plus petites propriétés. Donc, on présume que c'est ceux qui ont plus de difficultés à payer parce que en plus, on doit payer les taxes là, sur nos chalets. Et ça, c'est régulier qu'il y a des augmentations de taxes.
Le président précise que les régions rurales seront particulièrement touchées par cette décision prise par Québec.
Ça va toucher aussi plus particulièrement des régions périphériques, parce que là, on parle des baux de villégiature qui sont au prix minimum. C'est sûr que les baux de villégiature qui sont au prix minimum, c'est pas les baux qui sont en banlieue de la ville de Québec, ni de Montréal, ni des grandes villes au Québec. C'est les baux qui sont les plus éloignés, et ce sont donc dans les régions périphériques. C'est frustrant, parce que vous savez, les villégiateurs dans les régions périphériques qui créent des retombées économiques importantes là, pour leur milieu.
Le RLTP recommande à la population de faire parvenir une lettre à leur député local ainsi qu'à leur préfet pour tenter de convaincre le gouvernement de faire marche arrière.
L'AFC tente d'identifier les frayères les plus productives du basket-ong.
Au cours des printemps 2025 et 2024, l'aire faunique communautaire Basque-Atong a prélevé des échantillons d'un centimètre carré au niveau de la nageoire caudale supérieure de nombreux dorés jaunes. Le tout est envoyé en laboratoire à Québec pour effectuer une analyse génétique. L'objectif de l'AFC est, entre autres, de comprendre quelles sont les frayères du réservoir Basque-Atong qui contribuent le plus à la santé du cheptel. Chloé Tellier, directrice générale de l'AFC Basque-Atong, explique que cette étude permettra à l'organisme d'ajuster ses actions si le besoin s'en fait sentir.
Ça nous prenait une quantité de femelles, une quantité de mâles pour vraiment venir dresser un bon portrait. Puis ensuite de ça, pendant la saison, bien, on va récolter encore des bouts de queue avec les pêches expérimentales, avec d'autres projets, pour savoir, grosso modo, est-ce que, exemple, 80 % de nos dorés proviennent de la frayère du Wendigo ou celle de la baie du Diable ou n'importe quelle des frayères. Fait qu'on va avoir un peu un portrait de cet ensemble-là, de leur provenance avec leur génétique pour pouvoir un peu adapter nos actions.
En 2024, l'AFC a protégé un tiers des frayères du réservoir Basque-Atong en les transformant en sanctuaires. Ce sont des zones où la pêche commence plus tard dans la saison et se termine plus tôt dans le but de préserver la ressource. D'autres sanctuaires pourraient voir le jour. Chloé Tellier rappelle que la productivité des frayères du réservoir Basque-Atong peut varier.
Frayère entre 0 à 12 % de taux d'éclosion. Donc, ça paraît quand même assez minime, mais une frayère comme une grosse génitrice, on sait que les chutes César, c'est un bon spot, comme on dit, pour la fraye du doré. Donc, peu importe le niveau d'eau, la frayère a un très bon taux de succès. Comparativement à certaines, que si l'eau n'est pas suffisamment haute ce printemps-là, bien, le doré n'est tout simplement pas capable de se rendre à la frayère. Parce que pour avoir une frayère, ça prend une entrée d'eau. Ça prend un enrochement.
Si le doré n'est pas en mesure de se rendre à une frayère où l'enrochement est adéquat pour protéger les œufs, les femelles risquent de pondre sur le sable ou de ne pas pondre du tout. Si l'eau est trop haute, l'oxygénation ne sera pas adéquate et le taux de mortalité sera plus élevé.
Une digue construite pendant la drave a des conséquences là, du côté du lac Murray.
Depuis des années, le taux de phosphore augmente dans le lac Murray à Aumont. C'est le résultat d'épisodes de haute eau qui a favorisé la pratique de la drave dans la région. C'est ce qu'a expliqué André Châtelain, président de l'Association pour la protection du lac Murray, lors d'une assemblée générale tenue samedi dernier à la salle municipale d'Aumont.
Donc, le lac Murray était utilisé évidemment pour faire flotter le bois. Et le bois, évidemment, au printemps, s'en allait vers la rivière Joseph et terminait sa course à Aumont, où il y avait un moulin ici. Mais pour que le bois circule bien, les gens de l'époque avaient jugé opportun de créer une digue au chemin Rickson, donc à déliage, à la sortie du lac Joseph, pour s'assurer que l'eau montait suffisamment à cette époque-là pour que le bois circule correctement. Sauf que là, ça s'est terminé depuis quand même pas mal d'années, mais la digue est encore là. Et la fameuse digue, bien, elle crée des problèmes.
Lors des fortes pluies ou après des hivers neigeux suivis de printemps hâtifs, la digue agit comme un étrangleur et favorise une montée des eaux qui peut être surprenante.
En 2019, on parlait de 8 pieds en hauteur. Là. Alors, imaginez les impacts. Donc, les impacts, c'est que les champs d'épuration, les fosses septiques, les chalets sont pas tous, mais quand même un certain nombre, sont inondés avec les conséquences environnementales que ça crée.
L'association tente de trouver des solutions avec divers intervenants comme les municipalités d'Aumont et de Déléage ainsi que les ministères de l'Environnement, de la Sécurité publique et celui des Transports. Mais la prise en charge de la situation se fait attendre, selon M. Châtelain. En 2017 et 2019, certains résidents n'avaient même plus accès à leur résidence en raison des chemins bloqués, témoigne le président de l'association. En 2024, l'eau est montée de 3 pieds lors d'un épisode de pluie diluvienne. Cela des conséquences environnementales, comme le mentionne M. Châtelain.
Quand la montée des eaux, dans le fond, inonde des champs d'épuration et des fosses septiques, bien, c'est clair qu'on se retrouve avec une augmentation de coliformes dans le lac, une augmentation, bien sûr, du taux de phosphore, la prolifération de la myriophylle, hein, parce qu'elle se nourrit de ça.
La présence du myriophylle est variable d'une année à l'autre, mais il a tendance à croître dans le lac. André Châtelain invite tous les riverains de l'Outaouais à devenir membres de leur association de lacs pour aider à changer les choses et préserver la valeur de leur propriété, qui est étroitement liée à la santé des lacs autour desquels ils ont bâti.
Évidemment, très important. Alexis, prochain bulletin, 9h et oui. 10h, puis 9h30, bon, on va discuter ensemble du bulletin à 10h, effectivement, comme on fait d'habitude.
À bientôt.
Merci à